El respeto al derecho ajeno es la paz. C'est avec cette phrase, prononcée en triomphe par le 26e président des États-Unis du Mexique, Benito Juárez, à son entrée dans la ville de Mexico après l'exécution de l'empereur Maximilien Ier du Mexique en 1867, que nous ouvrons cette émission. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire en Onde. Je suis Thiao Arnet, et aujourd'hui, comme à l'accoutumée, je partage le studio avec Monsieur Thomas Burkhardt.
Bonjour.
L'automne est là, il commence à faire froid, nous vous emmenons donc loin de la dépression saisonnière, en Amérique centrale, plus particulièrement dans le Mexique du 19e siècle, avec un personnage particulier et singulier, Maximilien du Mexique. N'est-ce pas Thomas ?
Alors oui, tout à fait, n'est-ce pas ? Nous allons vous parler de ce Maximilien de Habsbourg. Il naît en 1832 donc, au palais impérial de Schönbrunn, à Vienne. Je ne vais vous faire l'affront de tenter une généalogie, préférant laisser cela à vous, Thiao, l'expert, si je puis dire, de ce domaine.
Donc je reprends directement la parole, mais oui, en effet, Maximilien, c'est donc le fils de l'archiduc Franz Karl d'Autriche et de sa femme Sophie de Bavière. Par son père, l'archiduc Franz Karl, il descend de la longue lignée impériale des Habsbourg, régnant depuis le 15e siècle sur le Saint-Empire, puis après l'épopée napoléonienne sur l'Empire d'Autriche, avec Frédéric III, donc père de l'empereur Maximilien Ier d'Autriche, pas celui dont on parle aujourd'hui. Maximilien Ier d'Autriche, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est le grand-père et le prédécesseur de Charles Quint, l'empereur très sûrement le plus connu du Saint-Empire, grand rival de François Ier et très sûrement personne la plus puissante du début des temps modernes. Cette dynastie, devenue depuis 1745 celle des Habsbourg-Lorraine, par le mariage de Marie-Thérèse d'Autriche de la maison de Habsbourg et François de Lorraine, son cousin au deuxième degré, est notamment connue, comme je l'ai précisé précédemment, pour ses mariages entre cousins, le mariage entre Marie-Thérèse d'Autriche et François de Lorraine étant un des plus éloignés de la dynastie, donc le tout menant à des singularités génétiques comme le malchanceux Charles II d'Espagne que l'on a nommé l'ensorcelé. Pour ce qui en est de notre Maximilien, il est le petit-fils, en ligne directe, de Franz II du Saint-Empire, devenu Franz Ier d'Autriche suite à sa défaite contre Napoléon, mais aussi le neveu de l'empereur Ferdinand Ier, sacré résidu de mariage entre cousins lui aussi, qui est obligé d'abdiquer en 1848. Et, par le fait, Maximilien est aussi le frère de l'empereur Franz Joseph Ier, empereur au règne le plus long de l'Empire d'Autriche et du Saint-Empire. Par sa mère, Maximilien descend du roi Maximilien Ier de Bavière, d'où il tire son nom. Il est donc un des princes européens les plus prestigieux de son époque, frère d'un des hommes les plus puissants de l'Europe du 19e, l'empereur d'Autriche, Franz Joseph Ier, alors à son poste depuis 1848.
Alors comme vous nous l'avez dit, hein, Maximilien est bel et bien le fils de Franz Karl, ou tout du moins le prétendu fils de Franz Karl, car dès sa naissance, Maximilien est déjà sujet à des rumeurs. Il serait le fils de Napoléon II, l'aiglon qui grandit à Vienne et très proche de sa mère, Sophie, ajoutant une dimension assez occulte à ce personnage déjà sujet à plusieurs particularités. Depuis jeune, il est assez remarqué pour sa santé fragile, hein, ses parents s'inquiètent dans un premier temps, mais le petit Maximilien a un tempérament assez rêveur, chose qui contraste grandement avec son frère, qui est plus terre-à-terre, discipliné, ce qui sied à Franz Joseph qui deviendra l'empereur. Il est par ailleurs d'un tempérament plutôt romantique, comme beaucoup de jeunes de son époque. Il apprend plusieurs langues, dont l'italien, le hongrois ou le polonais, chose qui reflète la diversité de son empire auquel il va par ailleurs être confronté. Adolescent, il fait un premier voyage en Italie, dans les provinces autrichiennes, troublé par la répression impériale face aux premiers relents nationalistes, chose qui lui fait évoluer donc des aspirations libérales. Par libéral, on entend bien sûr une politique qui vise à plus de liberté et non pas de politique économique. Quoi qu'il en soit, en 1848, lorsque son frère devient empereur, ce dernier s'oppose à son mariage avec la comtesse Paola von Linden d'un rang inférieur et l'envoie à Trieste, en actuelle Italie, sur la côte Adriatique, pour qu'il se forme à la marine. C'est là une chose qu'il va adorer, hein. C'est un romantique, comme je vous l'ai dit, il aime l'aventure, il aime le frisson, et se met à rêver de voyages lointains, participant à quelques expéditions en Méditerranée et au Moyen-Orient, alors qu'il est nommé en 1854 contre-amiral. Maximilien est en effet vice-roi de Lombardie-Vénitie en 1857 et entame son mandat avec des ambitions libérales et modernisatrices. Il s'installe à Milan, alternant entre le palais royal et la villa de Monza, et se présente comme un souverain éclairé. Lui qui aime tant naviguer développe la flotte impériale, notamment avec l'expédition scientifique de la frégate Novara, qui fait le tour du monde et achève la construction du château de Miramar à Trieste, malgré les critiques de son beau-frère, hein, Léopold II, qui juge ses dépenses extravagantes. Mais donc Maximilien tente d'apaiser les tensions avec les populations italiennes sans grand succès.
J'ai comme l'impression que c'est un signe annonciateur, non ?
Et bien sûr, le plan politique, Maximilien souhaite une gestion libérale offrant des réformes fiscales et des améliorations urbaines telles que l'assainissement de la lagune vénitienne et l'embellissement de Milan. Ces initiatives lui valent l'admiration des observateurs étrangers. Toutefois, il est rapidement confronté aux limites de son autorité. Le pouvoir autrichien est dominé par des militaires qui s'opposent à toute forme et exigent une politique répressive. Maximilien, lui, plaide en faveur, mais en vain, auprès de son frère l'empereur pour un pouvoir plus centralisé qui lui permettrait de mener une politique de conciliation. Isolé et délisionné, il doit finalement renvoyer Charlotte, donc sa femme, dont je vais vous parler plus tard, pour sa sécurité, et observe impuissant l'aggravation des tensions politiques jusqu'à sa révocation en 1859. Contraint de quitter la Lombardie, Maximilien se retire sur la côte dalmate, à Miramar, tandis que l'Autriche perd ses possessions italiennes après la défaite face au Piémont et à la France. Ses projets pour l'administration bienveillante et son désir de rapprochement avec les Italiens échouent face à la montée des aspirations nationalistes comme un prémisse à la fin de l'Empire des Habsbourg.
Pour ceux qui en aient du Mexique, car c'est aussi là notre sujet, celui-ci se trouve dans une situation politique complexe depuis son indépendance du Royaume d'Espagne en 1821. Après un conseil de régence, mis en place par notamment Agustín de Iturbide, celui-ci, membre de l'ancienne noblesse mexicaine et espagnole, devient l'empereur Agustín Ier en 1822. Il est malheureusement, pour lui, démis de ses fonctions par la commission de Carlos López de Santa Anna, déclarant la République en mai 1823, après moins d'un an de règne. L'empereur est exilé en Italie, puis à Londres, où il aménage. L'année suivante, il décide, à la manière d'un Napoléon Bonaparte, de reprendre le trône impérial du Mexique, et débarque sur les côtes en juillet 1824, pensant pouvoir faire une remontée à la manière de Napoléon Ier et de sa remontée du Rhône avant la période des 100 jours, où il a réussi à ramasser tous ses anciens fidèles à ses côtés. Malheureusement, pour lui, tout ne se passe pas comme prévu. Le congrès mexicain voit d'un très mauvais œil le bonhomme et décide de prononcer son arrestation par le biais du parlement de Padilla. Agustín est ainsi arrêté et condamné à mort, fusillé 5 jours seulement après son débarquement sur les côtes de l'état de Tamaulipas. À sa mort, la tradition veut que son fils, Agustín II, prenne sa place. Il devient donc prétendant au trône du Mexique à partir de 1824. Il tente plusieurs fois de reprendre le pouvoir, mais ne réussit aucunement dans la chancelante République mexicaine. Et oui, la République est chancelante. Elle connaît une grande instabilité politique, connaissant 27 présidents, sans compter les triumvirs et pouvoirs intérimaires entre chaque mandat, entre 1823 et 1863. Pour donner un comparatif, en France, on a eu 25 présidents de la République depuis 1848 et 24 depuis 1870, presque sans interruption, si ce n'est compter l'époque sombre du maréchal. Eux, ils en ont eu plus, en seulement 40 ans. Et en plus de ça, ces nombreux présidents n'exercent pas qu'un mandat, ils en exercent plusieurs, qui sont très souvent déconnectés les uns des autres, et pour certains, ces mandats durent moins de quelques jours, le plus court est durant seulement 45 minutes. Cette instabilité prend une tournure dramatique pour la République à l'arrivée au pouvoir du libéral Juárez en 1858. Ce dernier veut en effet se rapprocher des États-Unis, notamment en donnant un laissez-passer commercial à ceux-ci dans une des provinces du Mexique. Cette décision est contestée par une grande partie de la nation, qui s'insurge et renverse Juárez durant la guerre de réforme de 1861, laissant sa place à Juan Nepomuceno Almonte. Celui-ci approuve, pour rétablir l'ordre, une intervention étrangère dans le pays, notamment par les troupes impériales de Napoléon III, celui-ci voulant une hégémonie française sur les trônes sud-américains. On a par exemple l'Empire du Brésil, qui est déjà très lié à la couronne française par le mariage de Gaston d'Orléans, petit-fils de Louis-Philippe, à l'héritière de Pedro II, Isabelle du Brésil. L'expédition du Mexique, comme on l'a appelé, débute alors en 1861. Pour remettre une stabilité politique à la tête du Mexique, un conseil de régence, encore une fois, cette fois-ci soutenu par les Français, décide de placer sur le trône Maximilien de Habsbourg, dont on vient de parler, alors âgé de 30 ans, en 1864. La décision est approuvée par le prétendant de l'époque, Agustín II, fils de Agustín Ier, qui fait adopter ses neveux, qui sont aussi ses successeurs, au nouvel empereur, alors sans descendance.
Maximilien est en effet marié à Charlotte de Belgique. C'est en 1856, alors jeune princesse belge et fille de Léopold Ier, qu'elle refuse un mariage avec le roi Pierre V du Portugal, malgré l'avis favorable de la reine Victoria, en raison des conseils de Madame Dulst, sa gouvernante depuis toujours, et de ses propres réticences envers la vie de reine. Elle préfère l'archiduc Maximilien d'Autriche, rencontré à Bruxelles en mai 1856. Séduite par son charisme, elle le choisit comme époux, encouragée par la liberté que lui laisse son père. Malgré une dot négociée âprement par Maximilien, le mariage est célébré en juillet 57. Il s'installe donc en Italie, après la nomination de Maximilien comme vice-roi du royaume lombardo-vénitien. Ils sont accueillis chaleureusement à Milan et prennent leurs quartiers officiels à la Villa de Monza. Mais Charlotte préfère Venise, où elle participe activement aux festivités et œuvres de charité. La reine, essayant de s'attirer la sympathie des Milanais en premier temps, apprend l'italien et participe, comme je l'ai dit, activement à des œuvres de charité. Mais malgré ses efforts, le ressentiment anti-autrichien continue de croître, chose typiquement italienne, sachez-le, comme le démontre la dure relation entre les Italiens et l'Empire, qui pourtant, en théorie, contrôle la péninsule.
Cette dure relation qui ne date pas d'hier, hein, à cette période, qui date notamment du Moyen-Âge, par exemple, on peut citer Léo Hohenstaufen, comme Frédéric Ier à la Barbarousse, et Frédéric II.
À partir de l'an 1000 même, presque.
Exactement.
Voilà. Et cependant, donc, Maximilien est absorbé par ses ambitions artistiques et politiques et délaisse rapidement son épouse, entraînant une solitude que Charlotte tente de combler par l'équitation, la peinture, la nage, enfin bref, tout un tas de loisirs qu'elle développe au château de Miramar, qu'ils rejoignent après la destitution de Maximilien. C'est elle qui, en 1866, va même quérir l'aide européenne lorsque les choses se corsent au Mexique, après le départ des Français. Mais elle est confrontée au refus de Napoléon III, qui ne veut plus soutenir l'empire de son mari Maximilien. Loin d'être accueillie avec les honneurs, elle loge au Grand Hôtel de Paris, se heurtant au manque de soutien français. Malgré ses efforts et ses plaidoyers auprès de l'empereur qui prétexte des raisons de santé et d'approbation ministérielle pour se désengager, sa cause échoue. Marquée par cet abandon, Charlotte va se rendre au Vatican pour tenter de rallier le pape, mais elle développe sur la route des signes de paranoïa, craignant un empoisonnement, avant de finalement se retirer à Miramar, dans la Dalmatie, encore autrichienne.
Comme vous l'avez dit précédemment, les choses se corsent au Mexique et Maximilien, dès 1866, et donc au bout de seulement 2 ans de règne, est tenté et voit des horizons pour l'abdication. Voyez-vous, Maximilien est alors confronté à l'échec du voyage de sa femme en Europe, alors qu'en même temps, au Mexique, les libéraux de Juárez fondent enfin un front et un mouvement anti-français et anti-européen, tentant de faire partir cet empereur mis en place par simplement les machinations françaises. Celui-ci reste cependant épaulé par les conservateurs et guidé par l'honneur. Sa décision de rester au Mexique, qui s'avère tragique pour lui, avec du recul, est saluée par de nombreux membres de sa famille, comme sa mère Sophie de Bavière et son frère cadet, l'archiduc Karl Ludwig. Il est bon de noter qu'il trouve la décision très bonne, car Maximilien leur cache la situation interne mexicaine. Perdant tous ses soutiens face à la puissante armée unie mexicaine, les Français étant partis du Mexique en 1866, l'empereur se réfugie à Santiago de Querétaro, ville favorable à son régime. L'armée libérale de Juárez met cependant la commune en siège à partir de mars 1867. La défense de la ville n'est pas si efficace que ça et tombe, à la manière d'un Alan Pinkerton, face aux troupes de Juárez en mai 1867, après moins de 2 mois de siège. Maximilien est alors capturé, son honneur l'ayant forcé à ne pas fuir. Il est enfermé dans divers couvents successifs dont les religieuses ont été chassées pour l'occasion. Il est ensuite jugé comme un usurpateur et un objet du pouvoir des Français, et ainsi condamné à mort. Cette décision provoque un grand émoi sur le vieux continent, tout d'abord auprès de son frère, ce qui paraît assez logique, l'empereur Franz Josef Ier, mais aussi auprès de diverses familles royales, comme celle de la reine Victoria au Royaume-Uni, celle de la reine Isabelle II en Espagne, et celle de Léopold II en Belgique, notamment. Mais aussi auprès de grandes personnalités politiques, comme Giuseppe Garibaldi, l'unificateur de l'Italie durant le Risorgimento, ou encore l'écrivain Victor Hugo, chose qui pourrait être surprenante vu ses positions anti-impérialistes. Maximilien, alors souffrant de la dysenterie et âgé de 34 ans, est amené sur le lieu de son exécution, avec deux de ses plus fidèles généraux, Miramón et Mejía. Il donne une pièce d'or à chacun des membres du peloton et leur demande de ne pas viser sa tête. Et pour ce faire, d'ailleurs, il écarte les branches de sa barbe afin de leur laisser le champ libre vers son cœur. Et il prononce alors ces mots. « Vive le Mexique, vive l'indépendance !» Ainsi est exécuté Maximilien Ier du Mexique, deuxième et dernier empereur de la nation.
Pour ce qui en est de sa femme, elle rentre en Belgique en 1867. Charlotte s'installe dans différents châteaux jusqu'à résider définitivement à Bouchou, près de Laeken, où elle mène une vie discrète, alors même que personne ne l'a prévenue de la mort de son mari. Sa santé mentale continue de se détériorer, ponctuée de crises et d'épisodes de délire. Les visites sont limitées à sa famille proche et elle s'éloigne de plus en plus du monde extérieur. C'est bien qu'elle n'a même pas conscience que la Première Guerre mondiale éclate, alors même que la ligne de front passait proche de sa résidence. Mais chose peut-être plus légère, il y avait là un respect pour la veuve malade, des panneaux demandant de la clémence poussant les soldats et les états-majors à préserver le calme sur cette petite partie du front. À sa mort, en 1927, ses funérailles sont marquées par une neige abondante, rassemblant des membres de la famille royale et d'anciens légionnaires belges ayant combattu au Mexique. Après son décès, le château de Bouchoux est racheté par l'État belge, devenant en 1938 le Jardin botanique national, aujourd'hui Jardin botanique de Meise. Mais cette mort accompagne aussi une fin tragique pour la maison des Habsbourg. On parle ici d'une dynastie importante pour l'Europe, entraînée dans la guerre par un militarisme prussien exacerbé et des nationalismes balkaniques qui poussent d'abord à la mort de l'impératrice Sissi en 1898 à Genève, assassinée par un Italien, puis à la mort de Rodolphe de Habsbourg, fils de Franz Joseph, qui se suicide en 1889, motivé par son père qui n'accepte pas ses décisions politiques, qui va lui-même mourir seul en 1916 après l'assassinat de son neveu, Franz Ferdinand, qui déclencha le dernier conflit de l'Empire, puisque Karl Ier, successeur de Franz Joseph, sera obligé d'abdiquer à la fin de la guerre, malgré des tentatives vaines d'une paix séparée avec les Alliés.
Et il est, pour rajouter à la tragédie, Karl Ier, donc le dernier empereur, meurt 4 ans après son abdication en 1922, alors replié et en exil sur une île méditerranéenne, le climat ne lui ayant pas fait que du bien. Il est bon de noter, ceci dit, que la famille de Habsbourg est toujours influente, notamment Othon de Habsbourg, fils de Karl Ier, mort en 2009, a été une très grande figure de la construction européenne, et actuellement le fils de l'actuel prétendant est pilote de F3, Ferdinand de Habsbourg.
Et d'ailleurs, si je puis me permettre une petite anecdote, Thiao, il faut savoir qu'en Autriche, d'après certains sondages, encore 60% ou 70% de la population sont désireuses de retrouver une figure monarchique, il me semble.
Ce qui, en somme, est plutôt probable, plutôt logique, dans le sens où l'abdication a été forcée par leur défaite, la défaite de l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale.
Exactement.
Pour ce qui en est du Mexique, parce qu'il est quand même là notre sujet, le Mexique est toujours une démocratie, une république qui a l'air d'être plus stable qu'à l'époque, et a élu récemment, et c'est assez bien pour le noter, sa première femme présidente, le 1er octobre dernier, en la personne de Claudia Sheinbaum. Voilà. Il est bon de noter aussi qu'il y a toujours des prétendants au trône impérial qui n'ont plus aucune conséquence, aucune manière d'agir sur le pouvoir politique au trône donc du Mexique. Il s'agit actuellement d'un certain Maximilien II de Iturbide, arrière-petit-neveu d'Augustine II, dont on a parlé, et par le fait, théoriquement, arrière-petit-fils adoptif de Maximilien, qui, on rappelle, avait adopté les neveux d'Augustine II. Ceci clôt notre émission, je pense. On a fait bien le tour.
Exactement,
du sujet.
Oui,
et donc, on se retrouve dans 2 semaines pour parler d'un sujet bien plus léger que la fin des...
Espérons-le.
Que la fin des maisons impériales dans des révolutions dans des révolutions assez tragiques. Et donc, ce sera comment se nourrissait-on avant les grandes découvertes, avant la découverte de la patate, de la tomate, et tout ça, notamment dans l'Antiquité. Et surtout, n'oubliez pas, l'histoire, c'est vieux, c'est fin, mais ça se mange sans fin.